Couture dans le Mide.
Avec Pierre Couture et Frank Fournier, le Dédoseur.
Radio X.
Ouais, il est là notre gars Jérôme Blanchet-Gravel, comment ça va?
Très bien, vous, les deux.
Oui, ça va bien. Écoute, toi, t'arrêtes pas, là. Je regarde, là, un nouveau livre qui s'en vient, La Société Chalet.
Ben oui.
Et Chronique du déclin.
Chronique du déclin, oui. C'est un peu le livre noir hein, du Québec, là. Vous voyez la couverture noire, c'est un peu le roman noir du...
Ben, il y avait le livre Le Canada...
du Québec moderne.
Comment ça s'appelait, le
journaliste? Ouais, Lester, ouais. Oui, certains m'ont dit que ça faisait un peu ça. L'idée, bon, je fais pas un clin d'œil à Normand quand même, Lester, là.
Ah, mais lui,
mais c'est
la
un
sauce.
Peu, c'est un peu le roman noir du Québec moderne, du Canada. J'inclus le Canada, hein, c'est Chronique du déclin québécois et canadien.
Mais c'est un concept que tu mets de l'avant depuis longtemps. Là.
Les gens l'aiment.
On se parle souvent, puis la Société Chalet, j'ai entendu en parler souvent.
C'est merveilleux.
Ça frappe l'imaginaire. Hein. C'est un peu, y a un peu une forme de trolling sociologique à travers ça. Mais c'est assez savoureux. Donc essentiellement, c'est un livre de chronique. Écoutez, de 2020 à 2026, ça déballe 2020, avril 2020 à avril 2026. Et donc, toutes ces sociétés, évidemment, qu'on a vu décliner ces dernières années en passant. Le point de départ, bon, c'est pas exactement le point de départ, mais ça a été un accélérateur, la pandémie de COVID. Donc, ça part.
Mais on a vu comment les Québécois se sont comportés aussi, là. Hein? Très, on s'est rangé rapidement sur le bord du pouvoir, puis on a dit, ben, allez-y, prenez-nous en charge. Comme quand on va au chalet en fin de semaine, on va se mettre...
Ah, puis le chalet aussi, hein, ceux qui avaient les moyens, évidemment, se sont réfugiés au chalet. Donc, cette société, évidemment, à l'écart du monde, qui refuse vraiment l'adversité, c'est une fuite, hein, la société chalet, bon, la fuite dans l'arrière-pays, c'est un évitement. On évite les problèmes politiques, économiques, on ne veut pas trop voir la réalité. C'est le grand évitement, la société
chalet.
On
laisse le temps jouer, hein? On joue le tableau tout le temps.
Effectivement, on utilise des boucs émissaires, Donald Trump, évidemment... c'est à cause de Donald Trump et on se réfugie constamment dans sa zone de confort dont on ne veut jamais sortir. Donc, cette société chalet, ben, c'est la société dans laquelle on vit. Hein, c'est ce que
ben,
je commence comme ça. Là.
La semaine dernière, on a eu un exemple parfait. Là, le PQ qui sort pour dire que tant que Trump est là, pas de référendum. Écoute, Frank.
Ben là, tu peux pas avoir un meilleur exemple de ce que Jérôme dit. Là. C'est qu'on remet notre destin. Ah, là, ce serait le temps de prendre notre destin en main. Mais pas tout de suite. On va attendre la tempête. C'est quoi que Buck a dit? C'est comme s'il y avait une grosse tempête dehors. Fait que pour l'instant, on reste à l'intérieur.
Ouais. C'est un peu comme quand on interdit l'Halloween, reporter l'Halloween quand il pleuvait. Là. Certains faisaient la blague sur ma page Facebook quand j'ai commenté justement cette sortie-là, là, assez ticoune de PSPP. Les gens disaient, ouais, mais s'il pleut le jour du référendum, faut-il le remettre au lendemain?
Non, non, mais c'est
on
complètement...
On est quasiment rendu là.
Hey, c'est taré. Noël, hein? Noël. On va reporter Noël.
Noël a été interdit 2-3 fois quand même durant la pandémie, 2-3 années de suite. Donc, c'est société ultra frileuse qui refuse d'embarquer dans le train de l'histoire, hein, finalement. C'est-à-dire, les intempéries font partie du système international. Donc, on a vu hier, la sortie de PSPP avant-hier ou avant-avant-hier. Là. Mm. Donc, ce Québec... qui attendrait un contexte international assez confortable pour faire un référendum, alors que par définition,
ça le sera pas,
le système international a toujours été relativement instable. Évidemment, il y a eu des grandes périodes de paix là, post-Seconde Guerre mondiale, mais généralement, l'histoire humaine est faite d'intempéries, d'aléas, c'est-à-dire de recul, d'avancée. Donc, il n'y aura jamais de moment parfait. Là. Le confort absolu pour faire la souveraineté, c'est un mythe, c'est une
utopie. La Watt, là, il n'y aura, pas de Watt.
On est vraiment là-dedans, on est vraiment dans la société chalet. Et ça me surprend de PSPP. Moi, je pensais qu'il était plus radical que ça, au sens noble. Et comme je le disais aussi dans un texte publié à Libre Média cette semaine, c'est-à-dire, rien ne garantit que l'ordre international sera plus stable après Donald Trump. Donc ça aussi, il ne faut pas faire croire ça aux électeurs. J.D. Vance, on l'a évoqué souvent, ça a été discuté cette semaine à Radio X. C'est-à-dire, il va y avoir un autre faucon potentiellement à Maison-Blanche. Je l'ai dit aussi à Yann et Frank, qui peut débarquer, prendre dans le bureau aval.
Les républicains, c'est un mandat, c'est 8 ans. Là. Il va avoir son terme. Puis
même les démocrates, historiquement, regardez les démocrates. Les démocrates ont appliqué la doctrine Monroe, etc. Même les démocrates ont défendu les intérêts des États-Unis d'Amérique sur le continent et ailleurs.
Ben oui.
Ben, il y a eu de plus d'immigrés, d'immigrants déportés sous Obama que sous Trump actuellement. Là.
C'est bien de le rappeler, tu vois. Mais toujours, on met toujours l'accent sur les méchants républicains. Mais c'est vrai, le contrôle de la frontière était peut-être plus serré à un moment sous Obama que sous d'autres administrations ou que sous le premier mandat de Trump. Ouais. Donc, c'est très relatif. Donc, les États-Unis, c'est les États-Unis. Là. C'est un pays qui a toujours été relativement expansionniste sur le continent, qui défend de manière très féroce.
C'est un pays très guerrier aussi.
Guerrier, là. C'est l'aigle. L'aigle américain va rester, peu importe Donald Trump. Donc, puis même qu'un dirigeant moins instable, là, si on veut vraiment le décrire comme ça, là, Trump, avec un tempérament, disons, plus relax, là, entre guillemets.
Démocrate.
Pourrait être aussi coriace. Là. C'est-à-dire, c'est pas rien qui... Il faut avoir une personnalité plus stable et tenir autant et sinon plus à vos points.
Bien ça, et on nourrit le mythe que les relations avec les États-Unis vont revenir à ce qu'elles étaient là, avant l'histoire avec le 51e État. Moi, je suis loin d'être convaincu de ça. Là. C'est-à-dire que ce soit Vince Rubio chez les Républicains, ça va peut-être s'apaiser un peu, mais cette politique-là de choc frontal entre les intérêts américains et canadiens sur l'accès aux minéraux, sur l'accès à l'énergie, tout ça, on n'est pas sorti de ça. Moi, je pense que c'est une séquence historique de 10-15 ans qu'on a. Là.
Mais c'est la Chine. C'est la Chine, parce que les Américains dansent contre la Chine.
Éléphant dans la
pièce. Ils demandent au Canada, tu danses avec nous autres ou avec eux autres?
Non, mais c'est exactement ça. Et c'est ça, la société chalet, c'est-à-dire cette société qui est décrochée même du continent, complètement en marche. Un chalet, c'est quoi?
Comme sur une île, hein?
Oui, un sentiment insulaire très clair. Donc, un chalet, c'est en périphérie. Donc, le Canada, évidemment, c'est en périphérie, sur les épaules des États-Unis. C'est un peu la banlieue plate de l'Empire, là. Donc, il y a tout un aspect géographique dans tout ça. Donc, cette société...
Les bons vieux loyalistes, là, hein, c'est ça?
Qui n'a pas conscience de ce qui se passe sur le continent. Donc, décroché, il n'y a pas de conscience continentale. En fait, ce que les Américains ont fait, c'est appliquer la doctrine Monroe, mais la nouveauté, c'est qu'ils l'ont appliquée maintenant au Nord. C'est-à-dire qu'on l'a toujours appliqué au Sud, l'Amérique latine le sait. Là, c'est-à-dire les Américains ont toujours...
Toujours une main,
là. Intervenus, ingérence électorale, tout ce que vous voulez, DIA, donc
Chili,
les gens...
Ouais.
Ce que vous voulez. Et là, le Canada, lui, avait jamais vécu ça, se pense toujours l'allié sympathique des États-Unis et comprend que les États-Unis ont étendu leur logique finalement au Nord. C'est un peu ça là, qui s'est passé, là, si on résume. Donc, il n'y a rien qui n'a effectivement garanti que l'ordre international, du coup, continental américain, nord-américain, va être plus stable parce que la Chine pousse, parce que l'Arctique, on sait, il y a des eaux qui se développent parce que la fonte des glaciers provoque l'ouverture de canaux là, en nord. Les Chinois sont là. On a découvert, on a un article cette semaine aussi dans Libre-Média. Il y a des bouées, c'est-à-dire des instruments.
Les Chinois
ont des navires, des fois commerciaux, mais qui en profitent pour installer des sondes dans les eaux territoriales canadiennes.
Les sous-marins.
Les Russes aussi. Ouais. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux. Les Américains le savent. Puis ça, c'est nié, mais les Canadiens, le Canada n'a pas fait sa job pour sécuriser le Nord de l'Amérique du Nord. Donc, ce que Trump a demandé au Canada, c'était ça. Faites donc votre job. Arrêtez de devenir une passoire migratoire. On ne peut pas avoir une passoire migratoire en bas puis en haut. Parce que là, c'était rendu que des Mexicains, moi, vous savez, j'aime beaucoup les Mexicains, mais les Mexicains, j'en connais, qui allaient au Canada pour descendre aux États-Unis. Là. Donc, ça m'a été dit souvent. Donc, les gens utilisaient le Canada pour passer à la frontière par le Nord. Donc, rappelons-le. Donc, ça a été n'importe quoi. Trudeau, c'est une catastrophe. Écoutez, les Américains sont patients. Ils ont toléré Justin Trudeau 10 ans. 10 ans à dire, il y a ce clown-là qui dirige le pays en haut de nous autres.
Ah, ils ont été très, très, très patients, mais garde.
Ils sont pas nerveux, là.
Ils ont été patients.
Société Chalet, ça va sortir au mois de septembre, à peu près?
1er septembre.
Bon, parfait.
C'est un coup de la rentrée, là. C'est publié aux éditions Libre-Média. Vous savez, on a lancé notre maison d'édition avec le livre Destination Autonomie d'Éric Duhaime. Donc, cet automne, on va en sortir 2 ou 3. Donc, on va bâtir notre catalogue là, graduellement. On est très contents. Et je
pour
pense
se le procurer, là, comment ça fonctionne pour les gens, d'abord, là, parce que là, il y a des gens qui le demandent.
Des gens précommandent là, sur Kindle pour la version e-book. Là.
Amazon
principalement, mais il va y avoir des librairies comme la librairie La Liberté qui vont distribuer donc un certain nombre de librairies ciblées, compatibles, qu'on aime.
Libre-Média, il y a un lien.
Sur Libre-Média aussi, ça va être incessamment. Là, on va publier il y aura un onglet sur le site où... qui va mener à la maison d'édition.
OK. L'Ukraine, Zelensky, hey sous enquête. Hein, c'était ça qu'on voulait jaser aussi?
Ben oui, les enquêtes de corruption qu'on a, ça commence à sortir. On en a parlé de ça dans le début de la guerre. On disait le Canada envoie des millions, même des milliards. Maintenant, je pense qu'on est
25 milliards.
Puis Jérôme, il y a un exemple qu'on aime souvent rappeler. Là, c'est l'histoire qu'on avait donné 5 millions pour du déminage inclusif en Ukraine. Et là, on apprend que finalement, cet argent-là, il s'est détourné par des apparatchiks du régime. Il y a des enquêtes, plein de gens très proches de Zelensky ciblés par des enquêtes de corruption. Et là, l'opposition là-bas, qui est un ancien de Zelensky qui a limogé, donc M. Federa, dit là, va falloir qu'il y ait des élections. Ça fait 2 ans qu'ils sont supposés d'avoir
une élection. Pas d'élection, là.
Oui, bien écoutez, les gens se posent la question, on le voit sur les réseaux sociaux, la question est très sensible. 25,5 milliards de dollars versés par le Canada au gouvernement de Kiev depuis l'offensive russe et deux proches, effectivement, de Zelensky qui sont corrompus pas à peu près. Donc, un qui s'appelle Timur Mindich, hein, qui est soupçonné d'avoir mené l'opération Midas, donc un vaste système de corruption d'environ 100 millions de dollars.
Hey, 100, détourné. C'est des bons pots de vin.
Oui, 100 millions hein? qui disparaît, c'est quand même de l'argent. Là.
100 millions.
Le gars, 100 millions, désolé. Et le gars a quitté l'Ukraine pour Israël en novembre 2025. Donc, le gars s'est poussé. Puis il y a aussi Andriy Yermak, qui est encore plus proche politiquement de Zelensky. Donc, il a été chef du cabinet et principal bras droit quand même de Zelensky jusqu'en 2025. Puis en mai dernier, il a été officiellement mis en cause dans une enquête de blanchiment pour près de 9 millions d'euros. Donc, lié à un complexe immobilier assez louche. Il nie les accusations. Et rappelons quand même que Chrystia Freeland est actuellement une conseillère proche de Zelensky.
Conseillère économique.
Apparemment, pour le développement économique, effectivement, c'est le terme employé depuis janvier. Donc, il y a une proximité incroyable entre le gouvernement du Canada, finalement, et l'Ukraine. Rappelons-le, 1,2 million de Canadiens ont des origines.
Des racines, oui.
Ukrainiennes. Donc, il y a un lobby ukrainien très fort au Canada qui conditionne beaucoup notre politique étrangère. Donc, ça pèse beaucoup. Mais là, ça devient scandaleux. Parce que là, il y a des gens qui ont de la misère à manger, là, puis on envoie 25,5 milliards en Ukraine. Un gouvernement qui en détourne la moitié, là, où, ben, écoutez, là, sans trop nous avancer.
Mais Zelensky, son nom était sorti à l'époque dans les Panama Papers. Hein, c'est ça?
Ouais.
Et ça avait comme un peu été flou. Et voilà, quelques semaines aussi, du côté de Monaco, il y a un oligarque qui a échappé de près à un attentat. Ben, c'est lié à tout ça. Là. Mm-hmm. L'argent est passé où? On a fait quoi? Les valises? Ça débarque un peu partout avec des grosses valises en Europe. On dépose ça devant des banques.
Ouais, ça fait James Bond un peu, bon, mais oui. C'est quand même ça qui se produit.
Ouais.
On voulait aussi peut-être parler de son documentaire, grand reportage.
En terminant sur l'Ukraine, c'est scandaleux. Puis là, ça serait le temps de quand même qu'il y ait une pression au Parlement canadien pour que le Canada quand même revoie peut-être à la baisse là, son financement parce que ça devient n'importe quoi. Notre grand reportage, effectivement, sur les deux Cuba a été diffusé cette semaine sur notre chaîne YouTube. C'est disponible aussi sur le site, là, si les gens veulent aller directement sur notre site. Donc, on a déjà des très bons commentaires. On est très contents. Documentaire, un grand reportage de 45 minutes quand même à Miami, tourné avec plusieurs... dissidents, donc des gens qui ont été notamment torturés en prison, décrivent les pratiques qu'ils ont subies, etc. Donc, ça met vraiment en parallèle les deux, hein, Cuba, c'est-à-dire ce Cuba vraiment détruit, meurtri par des décennies de socialisme, et ce nouveau Cuba, entre guillemets, qui est à Miami, hein, dans l'État de La Havana, qui lui, évidemment, bon, suit ça depuis le début. Puis, j'ai trouvé aussi un prof d'université, l'Université de Floride, qui lui nous dit, écoute, commence l'entrevue comme ça, il dit... Ça fait 40 ans que je suis à Miami. Il dit ça fait 40 ans qu'on prédit la chute du régime pour la semaine prochaine. Donc, lui, plus pessimiste que les opposants, évidemment, qui sont plus dans le discours politique, là, qui a une espérance incroyable, mais aussi des gens, bon, des académiques, des universitaires, qui disent, écoutez, reconstruire l'Ukraine, d'abord, c'est 100 milliards. Reconstruire Cuba, c'est 100 milliards de dollars déjà.
100 milliards, donc il faudrait trouver le cash. Mais la diaspora a de l'argent, pareil. Puis là, on a des nouvelles représailles. Là, hein? Les Américains ont ajouté là, dans les dernières heures
hein?
des embargos.
Encore?
Oui, oui, oui.
La pression n'a jamais
resserre,
été...
On resserre. Mais ouais, tu vois que Trump veut aussi changer. Là. L'Iran, d'après moi, il veut s'en éloigner. Là. Il a parlé de la Corée du Nord, et la Corée du Sud.
Oui, Oman, tu sais, ça tire partout. Là.
Cuba. Fait que je pense
ça
qu'on
serait
va
plus
s'en...
cohérent de revenir. Écoutez... Ouais. Rappelons-le, La Havane est à moins de 400 km de Miami. Donc là, si on est sur une doctrine Monroe, effectivement, le continent d'abord, ce serait plus cohérent qu'aller en Iran. Après, l'Iran, c'est un régime aussi qui est criminel, etc. C'est dommage, mais... Donc, allez voir ça. On a des très bons commentaires. C'est un document... reportage qui est assez riche, je pense, et assez instructif.
Il y a du stock, oui.
Allez voir ça sur notre chaîne YouTube.
Jérôme Blanchet-Gravel, Libre Média, on peut s'abonner. Il y a ça aussi, hein, les gens peuvent souscrire.
Oui, à partir de 4,99 par mois. Aidez-nous à faire ce journalisme-là, honnêtement. Je suis très content, je suis très satisfait. Il y a encore des défis, là, forcément, économiques. Période de transition, bien évidemment, on se bat encore contre des médias traditionnels ultra-subventionnés. Sous respirateur
artificiel. Vous n'êtes pas subventionnés, vous autres, là?
Non, 0-0, puis on en fait une fierté.
Mais ben, à l'époque, moi, je me souviens, tu sais, j'ai travaillé au Soleil longtemps. À l'époque, les médias, les gens s'abonnaient à des médias, là.
Il payait, ça marche encore.
Il payait un abonnement, puis il adhérait à l'information qu'il y avait. Là.
Puis il nous vole notre aura. Hein. Vous avez vu la presse, c'est incroyable. Quand la presse sollicite des dons, c'est soutenir l'information libre et gratuite. La presse, là, ça devient un peu clownesque. c'est la preuve que les médias indépendants fonctionnent quand ils se sentent obligés de voler un peu notre brand, là, comme on dit. Puis quand le devoir demande de soutenir le journalisme libre et indépendant, on se dit, écoutez, là, ça dépend. Là.
Merci pour tes lumières, Jérôme Blanchet-Gravel. Après la pause, c'est la musique qui prend le relais.
Absolument.
Les nouveautés, puis... J'ai un petit montage de Dua Lipa. C'est assez gâté, elle, dans sampling. Hein?
Ouais.
On revient après la pause.
Couture dans le mid.
Petite pause. On revient dans pas long.
Radio X.